Prions. Seigneur Jésus, vraiment nous remettons entre tes mains et nous prions que ça soit ta parole qui nous parle, c'est toi qui nous parles à travers elle. Et nous désirons la sonder pour que ça soit elle qui nous transforme, qui transforme nos vies. Nous ne désirons pas parler sur un texte, mais nous désirons découvrir ce que toi tu as à nous dire, ce que toi tu veux nous dire à nous, pour notre vie, pour notre cœur. Et ce que tu désires changer, ce que tu désires transformer. Vraiment, Père éternel, nous attendons puissamment à toi et à ton esprit pour qu'il agisse dans les cœurs et dans nos vies. Amen. Dieu s'occupe-t-il de nous ou est-il parti en vacances? Voilà le titre de mon message. Alors, c'est intéressant parce qu'on a commencé le culte par quelque chose, mais je ne vais pas en dire plus. Pour la plupart de nos compatriotes, de nos amis, je dirais, français, si Dieu existait vraiment, on se demande pourquoi il y a tout ce bazar dans ce pays et même dans ce monde. Pourquoi des gens meurent de faim, pas en français, mais bon, les Français se posent la question quand même, pourquoi des gens meurent de faim, pourquoi des gens se font la guerre. En bref, pour eux, si Dieu existe, il a dû prendre une petite semaine de vacances. Et comme 1000 ans sont comme un jour, vous le savez, ça fait un moment qu'il ne s'occupe plus de notre terre depuis un petit moment. Mais ce n'est pas tout. Parfois, même, je me dis à moi-même, heureusement que nous ne vivons pas à l'époque du peuple d'Israël. Car Dieu était vraiment un Dieu terrible et horrible. En bref, on a l'impression qu'il ne gérait pas trop la situation, un peu colérique en plus. Heureusement que Jésus est arrivé pour attraper le Dieu de l'Ancien Testament. Ce Dieu lointain, 3 points de suspension. Pourtant, fait hallucinant du Nouveau Testament, Dieu nous dit, c'est Jacques qui nous dit, Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. En lui, il n'y a aucune ombre de variation. Selon ce passage, le Dieu de l'Ancien Testament n'est rien de différent de Jésus-Christ. Jésus, si présent à nos côtés, amour, comme on a vu ce matin, c'est donné pour nous, qui veut notre bonheur, il veut notre salut, est le même que le Dieu de l'Ancien Testament, que l'on voit comme jaloux, et même qui se met en colère. Je ne vous invite pas ce matin à me suivre dans un débat théologique sur le Dieu de l'Ancien Testament, mais à suivre la vie d'un personnage de l'Ancien Testament et de voir si le Dieu de l'Ancien Testament s'est occupé de lui. Nous savons que Jésus s'occupe de nous, mais est-ce que le Dieu de l'Ancien Testament s'est occupé de ce personnage? D'après vous, de quel personnage je vais parler ce matin? On en a parlé ce matin. À l'introduction, David. Alors, on a vu que David, il a écrit plein de psaumes. C'était quelqu'un, semble-t-il, très spirituel. On va voir quelle a été sa vie aujourd'hui, dans un des passages. Nous allons essayer de voir si Dieu s'est occupé de David ou s'il a préféré prendre quelques jours de congé, car il a trouvé que David était tout à fait à la hauteur pour se débrouiller tout seul. Je vous invite à lire avec moi 1 Samuel 29, du chapitre 29 et chapitre 30. La lecture est un peu longue, mais je vous invite à suivre dans vos Bibles, parce que si vous suivez oralement, vous allez perdre le fil. 1 Samuel, chapitre 29 et chapitre 30. Un Samuel 29. Les Philistins concentrèrent toutes leurs troupes à Aphek, tandis qu'Israël était campé près de la source de Jisréel. Les 5 princes de Philistins défilèrent en tête de leur unité. Des centaines et des milliers de David et ses hommes formaient l'arrière-garde autour d'Achish. Les princes des Philistins demandèrent: que font ici ces Hébreux? Achish leur répondit: ne reconnaissez-vous pas David, qui avait été au service de Saül, roi d'Israël, mais qui depuis un an ou deux est chez moi? Depuis qu'il s'est rallié à nous, je n'ai jamais rien eu à lui reprocher. Mais les princes des Philistins se fâchèrent contre Achish et lui dirent « Renvoie cet homme dans la ville que tu lui as assignée. Il ne faut pas qu'il participe avec nous au combat. Sinon, il pourrait se retourner contre nous avec ses hommes en pleine bataille. N'est-ce pas au prix de la tête de nos gens qu'il pourrait regagner la faveur de son suzerain ? N'oublions pas que c'est pour David que les femmes chantaient en dansant. Saül a frappé ses milliers et David ses dizaines de milliers. » Finalement, Achish appela David et lui dit « Aussi vrai que l'Éternel est vivant, tu es un homme juste et j'aurais aimé que tu prennes part avec moi à cette expédition militaire, car je n'ai jamais eu rien à te reprocher depuis que tu es venu chez moi jusqu'à ce jour. Mais tu n'es pas bien vu des autres princes philistins. Maintenant donc, repars en paix chez toi pour ne pas les indisposer. » David lui dit « Mais qu'ai-je donc fait pour que je ne puisse pas aller combattre les ennemis de mon seigneur le roi ? Qu'as-tu trouvé à reprocher à ton serviteur depuis le jour où je me suis mis à ton service jusqu'à maintenant ?» Achish répondit à David « Je le sais bien, car je t'ai apprécié comme un ange de Dieu. Seulement les princes des Philistins m'ont dit « Il ne participera pas à la bataille avec nous. » Maintenant, lève-toi de bon matin, toi et les serviteurs de ton maître qui sont venus avec toi. Levez-vous de bon matin dès qu'il fera clair et partez. » Le lendemain, David et ses hommes se levèrent de bonne heure pour se mettre en route et regagner la Philistie, tandis que les Philistins montèrent vers Jisraël. Lorsque David arriva le surlendemain avec ses hommes à Tsiklag, il la trouva ravagée et incendiée. Les Amalécites avaient fait une incursion dans le Négev et contre Tsiklag. Ils s'étaient emparés des femmes et de ceux qui se trouvaient dans la ville, quelle que soit leur condition sociale, sans toutefois tuer personne. Ils les avaient amenés et avaient continué leur chemin. Quand David et ses compagnons arrivèrent à la ville, ils découvrirent donc qu'elle avait été incendiée et que leurs femmes, leurs fils et leurs filles avaient été amenés captifs. David et ses compagnons se mirent à crier et à pleurer jusqu'à en être épuisés. Les deux femmes de David, Ahinoam de Jisraël et Abigaïl, veuve de Nabal de Carmel, étaient parmi les prisonnières. David était dans une situation très angoissante parce que ses compagnons étaient pleins d'amertume en passant chacun à ses fils et à ses filles et ils parlaient de le tuer à coups de pierre. Mais David puisa de nouvelles forces en se confiant en l'Éternel. Il demanda au prêtre Abiathar, fils d'Ahimélec, d'apporter l'éphod servant à consulter l'Éternel. Abiathar le lui présenta. David interrogea l'Éternel en lui demandant « Dois-je poursuivre cette bande ? Parviendrai-je à la rattraper, à les rattraper ?» Et l'Éternel lui répondit « Poursuis-les car tu vas les rattraper et tout récupérer. » David se mit en route avec 600 hommes. Ils parvinrent au torrent de Bézor et certains s'arrêtèrent là. David continua la poursuite avec 400 hommes. Les 200 autres, trop fatigués pour traverser le torrent de Bézor, restèrent sur place. Les hommes rencontrèrent dans la campagne un Égyptien. Ils l'amenèrent à David, lui donnèrent du pain qu'il mangea et de l'eau. Puis ils donnèrent quelques figues sèches et deux gâteaux de raisins secs. Quand il eut les vus manger, il retrouva ses esprits car il n'avait ni mangé ni bu pendant 3 jours et 3 nuits. David l'interrogea « Qui est ton maître ? D'où viens-tu ? » « Je suis un jeune Égyptien, répondit-il, esclave d'un Amalécite. Mon maître m'a abandonné parce que je suis malade. Je suis tombé malade il y a 3 jours. Nous venions de faire une razzia dans le sud du pays des Kérétiens, dans le territoire de Juda et dans le désert de Caleb. Nous avons aussi incendié Tsiklag. » David lui demanda « Veux-tu me guider jusqu'à cette bande ? » Jure-moi par ton Dieu que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas mon maître, lui répondit l'Égyptien, et je te conduirai jusqu'à eux. Il guida donc David jusqu'aux Amalécites, qu'ils trouvèrent éparpillés sur toute la contrée, en train de manger, de boire et de danser à cause de l'énorme butin qu'ils avaient rapporté du pays des Philistins et de celui de Juda. David les attaqua à l'aube et les battit jusqu'au lendemain soir. Aucun d'eux ne lui échappa, excepté 400 jeunes qui réussirent à fuir sur des chameaux. David récupéra tout ce que les Amalécites avaient pris. Il délivra ainsi ses deux femmes. Personne ne manqua à l'appel, ni petit ni grand, ni fils ni fille. Ils trouvèrent également tout le butin qui leur avait été enlevé. David ramena tout. Il s'empara aussi de tout le gros et le menu bétail. ceux qui marchaient en tête de ce troupeau, disaient « Voilà le butin de David. » David revint vers les 200 hommes qui avaient été trop fatigués pour le suivre et qui étaient restés au torrent de Bézor. Il vient au-devant de David et de ceux qui l'accompagnaient. David s'approcha d'eux et les salua. À ce moment, un groupe de vauriens et de mauvais sujets qui avaient accompagné David se mirent à dire « Puisqu'ils ne sont pas venus avec nous, on ne leur donnera rien du butin que nous avons récupéré, sauf leurs femmes et leurs enfants, qui les amènent et qui s'en aillent. » Mais David dit « Mes amis, n'agissez pas ainsi avec ce que l'Éternel nous a donné. Il nous a gardés, il nous a donné la victoire sur la bande de pillards qui nous avait attaqués. Qui donc pourrait vous approuver dans cette affaire? La part de celui qui a gardé le camp sera la même que celle du soldat qui a participé au combat. Ils partageront équitablement. » De fait, à partir de ce jour, cette manière d'agir fut érigée comme loi et règle en Israël. Elle est encore en vigueur aujourd'hui. David rentra à Tsiklag et il envoya des parts du butin aux responsables de Juda qui étaient ses amis. Il y joignit le message suivant : « Voici un présent pour vous provenant du butin pris aux ennemis de l'Éternel. » Il fit cet envoi aux responsables de Bethel, de Ramoth, du Negev, de Yatir, d'Ar, de Simoth, d'Ethmeoa, de Rakal, des villes de Yéraméli, de celles de Kénien, aux responsables de Horma, de Bon Hachan, d'Atak, d'Hébron et de tous les endroits où David et ses hommes avaient passé. Pour comprendre la scène que nous venons de lire, nous sommes obligés de faire un petit flashback sur le début du chapitre 27, où David en a vraiment assez d'être poursuivi constamment par Saül, et il craint pour sa vie. C'est pour cela qu'il décide de prendre un peu les choses en main en ce début du chapitre 27. Je vous lis le verset 1, vous n'avez pas besoin de le chercher. David se dit « Je serai un jour supprimé par Saül. Je n'ai rien de mieux à faire que de me réfugier au pays des Philistins, afin que Saül renonce à me chercher encore sur le territoire d'Israël. Ainsi, je lui échapperai. » On dirait que David vient d'oublier, dans un temps très bref, deux situations où Dieu lui avait donné Saül en pâture. Il aurait pu mettre un terme à sa vie, mais s'en était gardé. Pourtant, David se concentre sur son problème et sur sa capacité à le régler. À une attitude confiante pour l'avenir placé en Dieu, il place sa confiance en lui. « Je serai un jour supprimé. Je n'ai rien de mieux à faire. Je lui échapperai. » Et cela le pousse à se réfugier chez ses pires ennemis, les Philistins. Il a déjà fait une escapade où il a dû se faire passer pour un débile profond. Bref, pas très glorieux pour un homme selon le cœur de l'Éternel. De manière tout à fait inattendue, il est bien accueilli par Achish. Peut-être que parce que Achish était au courant que David était poursuivi par Saül. C'est pour cela qu'Achish lui donne une ville, Tsiklag, assez éloignée. David reste alors pendant plus d'un an dans le pays avec ses 600 hommes. Il fait des raids chez les ennemis, nous dit le chapitre 27, mais qui s'avèrent être également des ennemis d'Israël et des Philistins. David organise régulièrement la dévastation complète et à chaque fois, il a comme jolie marque de fabrique d'exterminer tout sur son passage, hommes, femmes et bétail. Vraiment pas mal pour un homme que Dieu considérera comme selon son cœur. Achish souhaite savoir ce qui se passe, mais à chaque fois David veille à ce que tout le monde soit exterminé pour que l'on ne parle pas contre lui. Début du chapitre 27. Achish appréciait sa façon de faire. Intéressant. On apprend alors au début du chapitre 28 que l'armée des Philistins se forme pour aller combattre contre Israël. Et là, Achish demande à David de participer à cette guerre avec lui. David n'est pas très chaud, pourtant comble de l'ironie, Achish veut qu'il soit son garde du corps. Voilà le contexte de notre passage. David, qui a voulu échapper à tout prix à Saül, de sa propre initiative, se trouve dans une situation pour le moins un peu embarrassante. Il se trouve à être enrôlé dans l'armée des ennemis qui souhaitent combattre Israël. Il a toujours souhaité ne pas porter la main sur Saül, alors que par deux fois la possibilité lui en était donnée. Pourtant, après avoir placé sa confiance en lui-même, il pourrait être celui qui tuera Saül. Mais que se passe-t-il? Dieu est-il parti en vacances ou s'occupe-t-il d'un gars comme David qui a sombré bien profondément? On peut dire que le trou est profond alors qu'il avait été si proche de Dieu. Que fait Dieu dans cette affaire? Laisse-t-il David tout seul avec son problème? Eh bien, dans cette affaire, nous voyons que David fait partie de l'arrière-garde autour d'Achish. Il est bien devenu son garde du corps et nous le voyons. David et ses hommes formaient l'arrière-garde autour d'Achish. Mais que se passe-t-il? Les autres princes des Philistins ne voient pas d'un bon œil la présence d'une personne de la race de leur ennemi. Renvoie cet homme dans la ville que tu lui as assignée. Il ne faut pas qu'il participe avec nous au combat. Sinon, il pourrait se retourner contre nous pendant la bataille. Même si Achish essaie par tous les moyens de défendre sa cause, les princes des Philistins ne sont pas du tout chauds pour voir à leur côté un gars qui pourrait se retourner contre eux pour regagner la faveur du roi. N'oublions pas que ce David a déjà fait parler de lui contre les Philistins, et notamment il a tué Goliath. C'est à regret qu'Achish renvoie David, lui faisant des éloges pour son comportement plus que limite et le considérant comme un homme juste. Finalement, Achish appela David et lui dit « Aussi vrai que l'Éternel est vivant, tu es un homme juste et j'aurais aimé que tu prennes part avec moi à cette expédition militaire. » Méfions-nous des éloges provenant des mauvaises personnes. David est sorti de la boue et du trou dans lequel il s'était mis. Et tout simplement par les ennemis de Dieu, David vient d'échapper au meurtre de son suzerain et peut-être à l'anéantissement de sa future royauté. Car tout pousse à penser que si le peuple avait vu David parmi l'armée des Philistins, il aurait eu beaucoup de mal à le proclamer roi quelques années plus tard. Dieu, dans cette affaire, sauve David de son mauvais pas pour lui éviter la catastrophe. Dieu continue à faire avancer son plan, à savoir prépare la victoire des Philistins sur le peuple d'Israël pour faire sauter la royauté à Saül et la donner à David, comme nous l'avons vu la fois dernière. Tout en s'occupant de David, Dieu s'occupe de son peuple et de son devenir. Tout en s'occupant de son peuple, Dieu fait progresser son plan de salut. Souvent, nous sommes dans la même situation que David. Nous avons perdu de vue Dieu et nous avons sombré dans nos inquiétudes. C'est alors que nous avons recherché des solutions toutes humaines à nos problèmes. Vous êtes dans la détresse au plan financier? Dieu n'est pas parti en vacances. Non, si vous êtes son enfant, vous pouvez vous accrocher à sa promesse. Il ne permettra pas que vous manquiez de quoi que ce soit. Par contre, si vous vous êtes fourvoyé dans des plans foireux pour obtenir de l'argent ou vous en sortir par vos propres forces, Dieu ne vous laissera pas vous fourvoyer trop longtemps. Comme David, à un moment donné, il va vous arrêter. Nous laisserons-nous arrêter par Dieu. Vous êtes dans la détresse sur le plan émotionnel parce que vous n'avez pas encore trouvé celle qui fera le plaisir de votre cœur. Vous avez pris les choses en main et vous êtes peut-être attaché à une personne qui ne croit pas en Dieu. Même dans cette situation, non, Dieu ne vous laissera pas tomber. À un moment donné, il saura vous arrêter comme il a fait pour David. Mais le laisserez-vous vous arrêter? Vous êtes dans la détresse car vous avez l'impression de stagner dans votre relation avec Dieu. Comme David, au lieu de regarder à Dieu, vous avez regardé à vos soucis, à votre travail, votre famille, à vos enfants. Et vous n'avez même plus le temps pour Dieu. Même dans cette situation, Dieu n'est pas parti en vacances. Il peut vous arrêter. Il peut vous arrêter de dépenser votre énergie pour des choses éphémères, pour au contraire vous concentrer sur des choses éternelles comme une relation intime avec lui, personnelle avec lui. Dans toutes ces situations, nous sommes au fond du trou comme David, parfois. Pourtant, Dieu peu comme il l'a fait avec David, nous sortir du trou dans lequel nous sommes tombés pour nous éviter le pire. Mais que fait-il après? Mais ce n'est pas tout. Que fait Dieu après nous avoir sortis du trou? Est-ce qu'il nous abandonne à notre propre sort pour que nous retombions aussitôt? Nous allons voir ce qui s'est passé dans la vie de David. David vient d'être arrêté violemment dans sa marche. Il rentre peut-être et sans doute soulagé de s'être vu épargner le combat contre son peuple. Pourtant, il ne sait pas ce qui lui attend. Lorsque David arriva le surlendemain avec ses hommes à Ziklag, il la trouva ravagée, incendiée. Il n'y a plus personne. Il s'était emparé des Amalécites des femmes et de ceux qui se trouvaient dans la ville, quelle que soit leur condition sociale. Le drame est là, sous ses yeux et de ses compagnons. Ils découvrent leur ville incendiée et leurs femmes emmenées. Verset 3 du chapitre 29. Quand David et ses compagnons arrivèrent à la ville, ils découvrirent donc qu'elle avait été incendiée et que leurs femmes, leurs fils et leurs filles avaient été emmenés captives. Je ne sais pas si à ce moment-là, ils se sont rappelés de ce qu'ils avaient fait pendant près d'un an et demi dans le pays. Mais à leur place, je pense que cela m'aurait légèrement trotté dans la tête, comme une punition du Tout-Puissant pour une attitude injuste. Et quelle est leur attitude? David et ses compagnons se mirent à crier et à pleurer jusqu'à en être épuisés, verset 4 du chapitre 29. Devant une situation aussi grave et déroutante dans votre vie comme dans notre vie, quand nous avons perdu un être cher ou en été dépossédés, nous avons le droit de faire comme David et ses compagnons, crier, pleurer. Nous pouvons comme eux pleurer pour épancher notre souffrance devant Dieu, c'est déjà un premier pas. En tant que chef, David devait assumer les conséquences d'avoir laissé le camp sans aucune protection et d'être puni de la même manière que eux avaient traité ces personnes. C'est pour cela que vient à lui un sentiment terrible d'angoisse. Je vous invite à lire avec moi le verset 6, chapitre 29. David était dans une situation très angoissante parce que ses compagnons étaient pleins d'amertume en passant chacun à ses fils et à ses filles. Et il parlait de le tuer à coups de pierre. Quand David était en grande détresse, pendant sa poursuite avec Saül, il avait à un moment choisi de préférer se confier en lui plutôt qu'en Dieu et de trouver une retraite tranquille pour sa vie dans le pays des Philistins. Pourtant, cette retraite se trouve être au contraire beaucoup moins tranquille que prévu. Elle l'amène même dans une circonstance où il est proche de mourir. Ses compagnons préfèrent rechercher le coupable au lieu de chercher une solution. Pourtant, cela participe dans l'esprit de David à comprendre la situation présente comme un appel à Dieu, de Dieu à revenir au sein de cette énorme détresse et angoisse, à lui, pour placer sa force, sa confiance. Quelle est l'attitude de David? La suite du verset 6 nous le dit. Mais David puisa de nouvelles forces en se confiant en l'Éternel, son Dieu. Le « mais » de notre passage incarne l'incapacité à trouver sa réponse à son problème tout seul. Ce « mais » incarne la réponse au « je » que nous avons vu tout à l'heure du chapitre 27, qui voyait en lui le meilleur moyen pour résoudre ses inquiétudes. Ce « mais » est un long chemin que Dieu a voulu faire en David pour lui montrer que dès lors que notre confiance est basée sur nous-mêmes, elle s'effondre un jour. Reste à savoir quand. Souvent, nous aussi, nous trouvons des palliatifs pour éviter de devoir nous confier en Dieu. Encore aujourd'hui, notre plus grand péché est de croire que nous pouvons vivre de manière indépendante par rapport à Dieu. Et cela impacte toute notre vie. En effet, comme nous croyons que nous pouvons vivre sans être totalement dépendants de Dieu, nous n'avons alors pas besoin de prier, car c'est se placer dans une situation de dépendance vis-à-vis de lui. C'est de jeûner car c'est décentrer nos intérêts premiers, non sur nous et notre satisfaction personnelle, mais sur Dieu. De lire la Bible car ça serait peut-être un moyen utilisé par Dieu pour nous transformer à son image. Notre croyance qui voit en nous-mêmes notre capacité à contrôler les événements de notre vie est le pire ennemi de notre foi. Elle aboutit forcément à une impasse. Reste à savoir quand. Dieu le sait bien et parfois il permet dans nos vies un certain égarement pour que notre rétablissement soit d'autant plus évident. Et c'est évident dans la vie de David. La situation est si tragique que le jeûne n'est plus le moyen pour le tirer de ses problèmes, que le jeûne ne donne plus rien et doit nécessairement laisser la place au. Il puisa sa force en se confiant en l'Éternel son Dieu. Sa force n'est plus en lui, comme toute la société nous aimerait nous le faire croire, comme notre ancienne façon de voir les choses, notre chair, voudrait nous le faire croire, mais en Dieu. Et cela, David s'en rend compte tout de même près de la mort, seul instant lui permettant une réelle remise en question. Est-ce que nous allons être sourds comme David? Et un chant qui dit, est-ce que je chante comme David, mais est-ce que nous allons être sourds comme David et attendre la veille de notre mort pour reconnaître notre besoin de Dieu? N'attendez pas cela, cela pourrait être trop tard. Mais David puisa de nouvelles forces en se confiant en l'Éternel son Dieu. Peut-être que notre vie aujourd'hui est dans une impasse, que votre vie est dans une impasse, car vous avez placé toute votre vie entre vos mains. Tant pour votre travail, que pour votre vie sentimentale, que pour votre vie tout court. C'est le moment aujourd'hui de lâcher prise. Lâchez l'idée que vous êtes maître de votre propre vie et que vous pouvez la conduire toute seule ou toute seule. Lâchez cela fait, voir enfin et maintenant un renouveau arriver. Pour David, sa relation avec Dieu est retrouvée et la victoire lui est montrée. Après l'épreuve, que se passe-t-il dans la vie de David? David commence à avoir la bonne perspective, à savoir comment Dieu peut, au travers de lui, faire sa volonté. Après avoir puisé complètement sa force dans l'Éternel, nous voyons que David a de nouvelles perspectives. Après avoir oublié, à mon avis, la nécessité pendant quelque temps de demander à Dieu des réponses, là, il ne peut se passer du conseil de l'Éternel pour aller au combat. Dieu, alors, ne joue pas à cache-cache, non. Il n'est pas parti en vacances. Il répond clairement, au contraire. Dieu donne alors tous les moyens pour retrouver le peuple qui a été emmené en esclavage. Il permet à David de trouver un Égyptien qui leur indique le chemin comme un panneau indicateur. Il permet à David que le combat soit diminué d'un certain nombre de personnes de leur camp pour que leur victoire leur soit encore moins incombée, mais à Dieu seulement. La fin est encore très intéressante. Quand ceux qui reviennent pensent que la victoire leur incombe et considèrent qu'ils ne doivent rien laisser aux autres, qui sont restés en arrière, David voit clair, peut-être pour la première fois, la victoire n'est pas à mettre à leur crédit, mais à celui de Dieu. Et que par conséquent, ces personnes qui sont restées à l'arrière n'ont pas une tâche de moindre valeur, mais au contraire, ont été ceux qui ont gardé l'arrière-garde pour éviter une contre-attaque ennemie. David est complètement transformé. Sa vision est complètement renouvelée. Et tout cela grâce à un seul fait. Que Dieu n'est pas parti en vacances, mais au contraire, s'est pleinement occupé de lui. Dieu s'occupe-t-il de nous? Ou est-il parti en vacances? Dieu s'est-il occupé de David ou l'a-t-il laissé se débrouiller tout seul? Non, mille fois non. Au contraire, Dieu s'est minutieusement occupé de sa formation, tout en lui laissant le soin de faire ses propres choix. Même lorsque David a voulu prendre les choses en main dans sa vie, Dieu ne s'est pas éloigné pour lui faire sentir son péché. Non, Dieu n'est pas un accusateur, mais un Dieu qui veille le moindre instant de nos vies pour nous rétablir. Au contraire, dans un premier temps, Dieu sort du trou David. Dieu sort David d'une mauvaise situation par laquelle il s'était mis, fourvoyé. Mais ce n'est pas tout. Dieu permet alors une situation de grande détresse pour qu'il arrête de placer sa confiance en lui-même et pour qu'il la place en Dieu, en lui seul. Toute sa vision est renouvelée, transformée, car il a accompli alors la volonté que Dieu a prévue pour lui. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Où en êtes-vous? Avez-vous l'impression que Dieu est parti en vacances? Alors peut-être comme David, vous avez voulu prendre les choses en main dans vos vies et cela n'a rien donné. Alors revenez à Dieu. Peut-être que vous passez par un moment de détresse grave, alors que Dieu peut-être veut vous apprendre que la force ne peut être puisée toujours en vous-même, mais qu'elle ne peut être qu'en Dieu. Peut-être que vous avez une victoire dans votre vie, alors n'oubliez jamais que Dieu est derrière elle. Celle-ci sera toujours l'antidote contre une trop haute opinion de vous-même. Non. Le Dieu de l'Ancien Testament n'a rien à envier à Jésus-Christ. En fait, c'est tout simplement le même qui a toutefois jugé bon de venir à notre rencontre sur la terre un jour pour que nous arrêtions de dire qu'il ne nous comprenait pas parce qu'il ne partageait pas notre condition. Non, Dieu n'a jamais changé dans sa nature. Il n'est jamais parti en vacances. Au contraire, il désire toujours s'occuper de nous. À nous seulement de croire qu'il veut le faire pour moi et pour vous. Père éternel, nous voyons que David s'était vraiment fourvoyé. Et tu vois qu'il s'en était complètement remis à lui-même et à résoudre les problèmes seul. Et tu vois combien il est tombé bien bas. Mais tu vois que tu étais présent dans toute cette situation et tu l'as relevé. Tu l'as relevé, tu l'as amené à un moment où il a été obligé de se remettre en toi. Et aujourd'hui, peut-être que c'est la même chose pour nous. Et Père, je te prie que tu nous gardes toujours cette vision que tu n'es pas loin, que tu n'es pas un Dieu qui est lointain. Au contraire, tu veilles sur nous et constamment tu regardes une occasion pour nous relever. Relever dans notre relation avec toi, relever dans nos disciplines spirituelles, relever dans notre vie où nous sommes peut-être inquiets, tristes, découragés. Père éternel, ô combien tu nous rafraîchis ce matin par ce rappel que tu es un Dieu présent, qui garde toujours ses commandements et qui veille sur ses promesses. Vraiment, tu n'es pas comme nous infidèles, au contraire, tu es fidèle et tu demeures fidèle. Vraiment, merci Seigneur.